rien de vraiment inédit, puisque ces versions-là sont déjà parues au cours des dernières années sur des rééditions augmentées des albums historiques des Beatles, y compris une chanson de Paul McCartney dont il n'était resté que quelques secondes sur le pressage original de l'album blanc. C'est un peu triste. Nous sommes 55 ans après la séparation des Beatles et il semble bien qu'il ne reste plus rien de nouveau à écouter. Et nous avons même la nostalgie d'une chanson qui, il y a 30 ans, faisait polémique parce qu'il s'agissait d'un titre posthume, mais maintenant, c'est un classique. D'ailleurs, quand on remonte le temps, on se rend bien compte que parler des Beatles, c'est parler de l'éternité, oui, bien sûr, mais aussi d'une expérience générationnelle. En 1964, quand les Lionceaux adaptent Hard Day's Night en français, ils chantent la Beatlesmania au présent de l'indicatif, avant que 13 ans plus tard, Laurent Voulzy, qui l'a vécu, la chante à l'imparfait.
Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au cœur.
Ensuite, les Beatles vont devenir une référence pour la génération qui les a découverts après leur séparation. Ils sont un mythe, certes, mais aussi la réalité d'un répertoire d'une influence encore puissante sur les imaginaires de la chanson française. Entre 2003 et 2013, la figure de Ringo Starr chez la Grande Sophie, Liverpool chez les Whippers Circus, le légendaire concert du Shea Stadium chez Vincent Delerme, la malchance de Peter Best chez Benoît Carré.
Jamais allé à Liverpool, mais quelques amis me l'ont chanté.
Alors j'ai hurlé dans le Shea Stadium. Alors j'ai crié I love you, John.
Ils chantent Love Love Me Too. Pourquoi ils m'ont viré?
Et ensuite, pour autant que les paroles des artistes des musiques populaires soient un indice, les Beatles deviennent peu à peu une référence, et seulement une référence. Un nom de star puissante du passé, cité parfois un peu au hasard. Entre 2009 et 2022, un vague souvenir chez Aurel San, HK et les Saltimbanques, Romeo Elvis.
Je suis les Beatles pour les jeunes ados.
On fera jamais les Beatles, on n'aura jamais le pognon.
Café, 7h du mat. Beatles.
Ainsi va le temps. Il n'y aura sans doute plus jamais d'inédits des Beatles qui ne sont peut-être plus autant indispensables à la découverte de la pop pour les jeunes artistes d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils changent les Beatles. Leur chanson la plus écoutée depuis l'apparition du streaming n'est pas un de leurs numéro 1 de jadis. C'est une chanson de 1969 sur l'album Abbey Road. En voici la prise numéro 9, présente sur Anthology 4, Here Comes the Sun.
Ces chansons qui font l'actu, Bertrand Dical à réécouter sur franceinfo.fr. La météo dans une minute.
Après la découverte du feu qui a changé le cours de l'humanité, après la création de l'ampoule électrique et l'invention du télescope, voici probablement la plus grande innovation qui a changé la vie des patrons de PME.
Avec Onto, vous fixez des plafonds mensuels pour chaque carte. Vous êtes notifié en temps réel des dépenses de vos équipes et vous validez leurs demandes en un clic. En bref, vous faites gagner à votre équipe finance jusqu'à 2 heures par semaine en moyenne.
Et ça, ça change la vie.
Conto. Total Economic Impact, réalisé pour Conto par Forrester Consulting 2025.
Quand on est parent, on protège ses enfants contre le froid, les dangers ou même contre les chagrins. Et contre les HPV, est-ce qu'on peut les protéger?
Les HPV sont des virus humains appelés papillomavirus. Ils sont responsables de plusieurs milliers de cancers chaque année. 80% des femmes et des hommes seront exposés à ces virus au cours de leur vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une vaccination sûre et efficace pour protéger ses enfants, les filles comme les garçons dès 11 ans.
Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
France Info Météo Avec le CIC, entreprise à mission, s'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Patricia Charbonnier.
Le temps sera très instable en début de semaine avec de la pluie et le redoux qui va gagner du terrain demain vers les régions de l'Est. Mais la météo s'annonce très agitée avec de la pluie toute la journée entre les frontières de l'Est, le Massif central et le Sud-Ouest. Ces pluies gagneront le quart sud-est dans l'après-midi. On attend des cumuls assez importants, notamment sur la Corse, sur le Sud-Ouest. De fortes chutes de neige sur les Alpes du Nord avec un risque d'avalanche qui sera très marqué demain. Et sur la moitié nord du pays, le temps restera assez nuageux avec de fréquentes averses, parfois fortes, orageuses, accompagnées de grésils sur les côtes de la Manche et sur la Bretagne, avec des températures en forte hausse demain matin sur le quart nord-est du pays. 3 degrés à Nancy, 4 à Dijon et dans l'après-midi, on attend 17 degrés de maximum à Perpignan, 11 à Quimper, 9 à Paris.
Merci d'écouter France Info, il est 19h30. Et c'est le retour de Thomas Benesch.
Les négociateurs au travail à Genève, dont ceux de la France, de l'Ukraine, des États-Unis, ils étudient le plan américain pour la paix en Ukraine, un plan composé de 28 points qui, selon Kiev, reflète la plupart des priorités clés de l'Ukraine. Ce soir, responsables américains et ukrainiens parlent de bons progrès quant à ces pourparlers. Israël affirme avoir tué le chef d'état-major du Hezbollah, cela lors d'une frappe menée ce dimanche dans la banlieue sud de Beyrouth. Une frappe qui a fait, selon le ministère libanais de la Santé, 5 morts et 28 blessés. Cet assaut intervient alors que le premier ministre de l'État hébreu a juré de faire, je cite, tout le nécessaire pour empêcher un renforcement du Hezbollah au Liban et du Hamas dans la bande de Gaza. Les premiers mots de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à la radio, gracié par Alger, remis en liberté, il se confie au micro de France Inter, revient notamment sur ses conditions de détention. Être prisonnier, c'est une humiliation, dit notamment l'auteur, dont l'entretien en longueur est à retrouver demain matin à 8h20 sur France Inter, en compagnie de Benjamin Duhamel et de Florence Paracuelos. Permission de sortie demain pour un détenu de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Il va ainsi pouvoir se rendre chez un possible futur employeur, selon les informations recueillies par France Info. Le prisonnier en question a 52 ans. Il a été condamné en 2012 pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Il est libérable en 2029. Ce soir, le garde des Sceaux estime dans ce dossier que le cadre législatif d'application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée. Et alors que cette permission de sortie suscite l'incompréhension dans les rangs des syndicats pénitentiaires. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, veut plus de policiers et de douaniers pour lutter plus efficacement contre le narcotrafic. Il veut 60 000 emplois supplémentaires, dit-il à l'occasion d'un meeting à Marseille. Un meeting organisé au lendemain de ce rassemblement en mémoire de Mehdi Kessassi, le petit frère d'Amin Kessassi, ce militant anti-narco-banditisme. Dans le Gard, un homme est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Sa compagne, âgée de 50 ans, a été retrouvée morte, le visage tuméfié à son domicile de Beaucaire. Le mis en cause est présenté jeudi au commissariat de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône pour déclarer qu'il venait de constater le décès de sa compagne. Une enquête est en cours pour déterminer le déroulement exact des faits. Enfin, le Stade français et Toulon s'affrontent ce soir en match de clôture de la 10e journée du top 14 de rugby. Le coup d'envoi de ce duel sera donné tout à l'heure à 21h05. Thomas Séchier.
C'était Thomas Benesch pour l'info. À tout à l'heure. À suivre à 19h33 sur France Info. Faut-il rouvrir le débat sur les rythmes scolaires? La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant fait 20 propositions au gouvernement, notamment l'instauration d'un cinquième jour d'école obligatoire le mercredi à partir du CP. On va en parler justement avec un spécialiste des rythmes et de la psychologie de l'enfant. Mais d'abord, comment éviter une paix trop défavorable? C'était tout l'enjeu des discussions aujourd'hui pour les Ukrainiens. Discussion à Genève.
France Info, 17h20. Thomas Séchier.
Négociations entre Américains, Ukrainiens et Européens sur le fameux plan de paix proposé par Donald Trump, le président américain qui met une très forte pression sur Kiev pour accepter ce plan, jugé pourtant très favorable à la Russie. Bonsoir Eric Bégala.
Bonsoir.
Les Ukrainiens et les Européens qui avaient l'ambition de corriger ce plan en 28 points, plan américain jugé très favorable à la Russie, mais Donald Trump a remis, Eric, la pression cet après-midi sur l'Ukraine.
Oui, dans un post sur son réseau social, Truth Social, Donald Trump a en effet fustigé les Ukrainiens dont, je le cite, « les leaders n'ont exprimé aucune gratitude pour nos efforts ». 20 minutes plus tard, l'un des participants à la conférence de Genève, Rustem Umerov, qui dirige le Conseil de sécurité en Ukraine, répondait, pour ainsi dire, à Donald Trump sur sa chaîne Telegram qu'il appréciait que les partenaires américains travaillent étroitement avec nous et comprennent nos réticences. Nous espérons faire davantage de progrès aujourd'hui, écrivait-il. Et justement, les deux délégations viennent de sortir et première déclaration, c'est que des progrès ont été faits. Alors, pour revenir sur le poste du président américain, il faut probablement pas trop se focaliser sur une pression sur l'Ukraine hein, mise par Donald Trump. Il s'agit juste d'une phrase, au détour d'une très longue péroraison, dénonçant surtout, comme il aime à le faire, la politique de son prédécesseur à la Maison-Blanche, rendant l'administration Biden responsable de cette guerre et répétant que si l'élection de 2020 ne lui avait pas été volée, ce sont ses termes, il n'y aurait jamais eu de guerre en Ukraine. Son poste sur Truth Social est clairement à destination politique. Politique interne américaine s'entend.
Que sont venus, Eric, chercher les Ukrainiens à Genève aujourd'hui ?
Eh bien, très probablement des précisions quant aux garanties de sécurité si une paix ou même un simple cessez-le-feu devait se concrétiser. Pour les Ukrainiens, la meilleure des garanties de sécurité, ce n'est pas d'avoir des avions américains ou des troupes européennes en Ukraine, c'est de pouvoir disposer d'une défense solide face à la Russie si celle-ci devait réattaquer. Toute limitation de son volume ou de sa qualité, le plan prévoyait une réduction du corps de troupes de l'armée ukrainienne d'un tiers, tout ça va clairement à l'encontre de la solidité de cette défense. De même que les échanges territoriaux inclus dans ce plan. Abandonner par exemple toute la partie non encore occupée par les Russes dans la région administrative de Donetsk, c'est aussi abandonner l'essentiel des lignes de défense physiques construites par l'armée ukrainienne et sur lesquelles justement l'armée russe bute depuis 2014. Abandonner la ceinture de forteresse établie dans l'oblast de Donetsk reviendrait à tout simplement baisser la garde face à l'armée russe qui, selon le plan, devrait juste se contenter de promettre de ne pas partir à l'assaut. C'est ça, surtout, que les Ukrainiens vont tenter de faire comprendre aux Américains.
Merci beaucoup, Eric Biegala. Nous sommes en ligne avec Bertrand Badi. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales. Alors, il y a un certain nombre de déclarations. En cette fin d'après-midi, il y a évidemment du langage diplomatique. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que l'Ukraine ressorte satisfaite de ces discussions qui ont lieu aujourd'hui à Genève ?
Satisfaite est un terme difficile à employer en ce moment, mais tout est une question, je dirais, de perception et de crédibilité. À partir de quel niveau la Maison-Blanche, le président Donald Trump, percevra que la résistance ukrainienne à ce plan risque de faire capoter son initiative. Si véritablement le front commun européen et ukrainien est crédible, à ce moment-là, effectivement, le président des États-Unis peut revoir sa copie. Pourquoi ? Parce que il y a deux éléments dans la tête du président des États-Unis. Réussir un coup diplomatique, on connaît cette obsession, et d'autre part, obtenir grâce à ce plan de paix, une situation nouvelle dans laquelle on retrouverait le beau temps de la cogestion américano-russe sur le monde. Alors, les deux ne vont pas forcément ensemble. Si on veut véritablement établir un succès diplomatique, il faut quand même convaincre au minimum les Ukrainiens. Pour convaincre les Ukrainiens, il faut que la pression européenne ne soit pas trop forte non plus. Il faut que les Ukrainiens aient le sentiment qu'ils n'ont pas le choix. Si la solidité du soutien de l'Europe à l'Ukraine est très clair et incontestable, à ce moment-là, effectivement, Vladimir Zelensky s'engagera dans une tentative de renégociation dont on perçoit quand même à l'horizon quelques éléments.
Lesquels ?
Eh bien, on voit bien qu'il y a eu quelques timides pas en arrière du président des États-Unis lorsqu'il a fait valoir que ce plan n'est pas définitif, quand il a plus ou moins laissé fuiter que c'était un modèle inspiré par des aspirations russes, mais que les États-Unis pourraient peut-être quelque peu remodeler l'ensemble. il montre que la porte n'est pas tout à fait fermée, mais selon son habitude, il y a une pression rhétorique, l'accusation portée à l'égard de l'Ukraine d'être ingrate, l'accusation portée à l'égard de l'Europe, tout ceci, effectivement, laisse planer une certaine incertitude, d'autant plus complexe que, vous savez, derrière ce dossier, il n'y a pas que le dossier russo-ukrainien. Il y a en même temps le dossier américano-européen, russo-européen, et même, je dirais, peut-être aussi le dossier européo-ukrainien. Donc, tout ceci se combine selon des modes d'équilibre assez subtils. Il est trop tôt pour savoir ce qu'il en est.
Vous avez peut-être vu la déclaration de François Hollande. Bertrand Badie, l'ancien président, estime aujourd'hui que le plan Trump pour l'Ukraine a deux conséquences historiques et dramatiques. La première, c'est la capitulation de l'Ukraine. L'autre, c'est la relégation de l'Europe sous la tutelle d'un condominium russo-américain, relégation au rang de spectatrice assiégée. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Oui, enfin, peut-être sans le formuler de cette manière, mais il est une chose certaine, c'est que Donald Trump et Vladimir Poutine pense à l'ancienne, c'est-à-dire selon des modèles d'équilibre de puissance et de rapport de force qui marquaient notamment le temps de la guerre froide. Dans cette façon de penser, à partir du moment où le président des États-Unis fait comprendre qu'il ne soutiendra pas absolument l'Ukraine jusqu'au bout de ses exigences, et là, le message est clair, c'est une façon de donner un feu vert à la Russie. Et c'est la raison pour laquelle ce plan de paix est un plan terriblement belligérant. Et il ne faut pas le séparer de toute cette ambiance que l'on entend en Europe occidentale sur les risques d'une guerre. Et là, de ce point de vue-là, je pense que l'analyse de François Hollande est tout à fait fondée. Ce plan constitue un danger de bien des points de vue, parce que effectivement, il crée chez un dirigeant à l'ancienne comme Poutine, l'idée qu'il peut y aller, et il peut y aller jusqu'au bout, que l'Europe toute seule ne pourra pas grand-chose. Dans le plan de paix, il est indiqué qu'il y aura une négociation entre l'OTAN et la Russie avec la médiation des États-Unis, ce qui veut dire que les États-Unis, de facto, ne sont plus dans l'OTAN. Donc, tout ceci, ce sont des signaux d'offensive pour le Kremlin. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Et puis, l'autre élément d'une extrême gravité, c'est que depuis 1945, il n'y a plus eu, jamais eu, de modifications territoriales avalisées par un traité de paix. Les quelques modifications territoriales, comme par exemple la sécession de l'Abkhazie ou de l'Ossétie du Sud qui appartenait à la Géorgie, n'ont jamais été reconnues sur le plan juridique. Ce serait donc la première fois qu'une cession de territoire obtenue par la force serait reconnue en termes de droit, ce qui serait un précédent extrêmement grave, parce que nous ne sommes plus à cette époque où on jouait des territoires. Depuis, il y a du droit international, depuis, il y a des opinions publiques, des sociétés, et donc on se demande avec inquiétude ce que la réalisation d'un plan aussi dangereux pourrait impliquer pour l'avenir immédiat et plus lointain.
Merci beaucoup Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, et je cite votre dernier ouvrage, L'art de la paix, chez Flammarion. Des journées d'école trop denses, des temps libres de plus en plus rares et des enfants qui subissent un modèle de société qui valorise la productivité et la performance. Partant de ce constat, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant formule 20 propositions, 20 mesures élaborées par ces 133 citoyens tirés au sort qui vont être transmises au gouvernement, parmi lesquelles l'instauration de la semaine de 5 jours à partir du CP, l'école donc y compris le mercredi. Et c'est une bonne idée, estime Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université Paris-Cité.
On sait qu'effectivement, les rythmes scolaires sur 5 jours favorisent une rythmicité du sommeil qui permet à l'enfant globalement se décaler, puisque en fait, ce qu'on voit essentiellement, c'est que quand les enfants n'ont pas classe le mercredi, ils décalent leur temps de sommeil entre le mardi et le mercredi matin. Ils ont du mal entre le mercredi et le jeudi matin de reprendre un rythme qui leur permette de dormir suffisamment, d'où le fait qu'ils soient un peu fatigués sur le jeudi et le vendredi. Alors, on sait que c'est difficile hein, pour les communes de mettre ça en place, mais c'est vrai que c'est un véritable enjeu, y compris d'égalité entre les familles.
Alors, il y avait déjà eu une tentative de passer à la semaine, pas de 5 jours, mais de 4 jours et demi, avec cours le mercredi matin. C'était sous François Hollande, hein, en 2013, la réforme Vallaud-Belkacem, abandonnée finalement quelques années plus tard, sous la pression notamment des communes. Pourquoi n'arrive-t-on pas à se mettre d'accord sur ce sujet des rythmes scolaires en France ?
Ben parce que, et c'est aussi dans le rapport, je pense que la commission citoyenne a bien planché là-dessus, il y a un véritable problème aujourd'hui de continuité éducative. Et c'est un peu là-dessus hein, que le changement des rythmes scolaires avait buté. Et puis pour des questions de moyens, c'est-à-dire qu'en fonction des mairies, il n'y a pas forcément suffisamment de fonctionnaires territoriaux pour prendre en charge globalement des activités péri- et extrascolaires. Mais c'est vrai que si on distribue le temps scolaire sur l'ensemble de la journée du mercredi, peut-être qu'on va pouvoir effectivement avancer sur cette réforme.
La Convention citoyenne dit plein d'autres choses, notamment au sujet des vacances. Pas toujours aux 16 semaines de vacances annuelles. Grégoire Borse, les élèves ont vraiment besoin de se reposer pendant ces 16 semaines ?
Oui, ils ont besoin de se reposer. Et puis, je rappelle quand même qu'on a un certain nombre d'exemples hein, d'autres pays européens ou dans le monde qui ont des de vacances scolaires qui sont relativement similaires avec celles proposées en France et qui pour autant présentent soit des résultats aux évaluations internationales qui sont plutôt supérieurs à celles de la France, mais au-delà de ça, des inégalités scolaires moins marquées qu'en France. Donc en fait, ils ont bien réfléchi, hein, cette convention citoyenne. Effectivement, la recette facile, ce serait de dire on va réduire le nombre de vacances scolaires, mais en fait, c'est pas forcément au bénéfice de l'enfant. Ils ont bien fait, effectivement, de maintenir l'idée qu'on n'apprend pas simplement à l'école. Le temps extrascolaire, c'est aussi un temps dans lequel on peut apprendre, mais avec l'enjeu, effectivement, aussi de proposer des activités qui soient de nature à pouvoir développer des compétences importantes pour l'école au cours de ces activités-là.
Certains disent que les vacances prolongent finalement les inégalités, avec d'un côté ceux qui ont la chance de partir, de voyager, oui. Ceux qui ont des parents qui leur font faire des devoirs, et puis ceux qui restent chez eux et qui ne vont pas mettre à profit ces semaines pour travailler.
Tout à fait, et c'est exactement comme ça qu'il faut penser la problématique, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on va proposer aux enfants de milieux sociaux moins favorisés pour qu'effectivement ces temps-là qui sont des temps de vacances, on puisse leur proposer des activités de très bonne qualité. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on propose comme activité extrascolaire de qualité pour ces enfants de milieux sociaux défavorisés, parce que vous avez entièrement raison, les enfants de milieux sociaux favorisés, ils continuent à apprendre pendant l'été et continuent à progresser, alors que c'est moins le cas pour les enfants de milieux sociaux défavorisés.
Grégoire Borst, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant rattaché au CNRS, invité de France Info ce soir.
France Info, 17h-20h.
Pour la reconnaissance du vin de Bretagne, une association se bat pour obtenir une IGP. On en parle juste après le fil info de Thomas Benesch, 19h47. Que va-t-il advenir, Thomas, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ?
Le futur de ce conflit est évoqué aujourd'hui à Genève à l'occasion de négociations. C'est pour parler, donne lieu à plusieurs prises de parole. Ce soir, responsables américains et ukrainiens saluent de bons progrès dans les discussions en cours. Le président ukrainien se dit personnellement reconnaissant vers Donald Trump pour les efforts engagés. Et cela après un message critique du locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social. Israël dit ce soir avoir tué le chef d'état-major du Hezbollah, cela lors d'une frappe menée ce dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, une frappe qui a fait au moins 5 morts selon le ministère libanais de la Santé. Être prisonnier, c'est une humiliation. Les mots employés par Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, se confie au micro de France Inter sur son année de détention. Lui qui a été gracié par Alger et est revenu mardi en France. L'entretien de Boualem Sansal est à retrouver demain matin à 8h20 en longueur sur France Inter au micro de Benjamin Duhamel et Florence Paracuelos. La 13e journée de Ligue 1 de football, 5 matchs se jouent ce dimanche. Brest et Angers ont gagné leurs rencontres respectives. Auxerre a fait match nul contre Lyon 0-0. Nantes et Lorient se séparent sur le score d'un partout tout à l'heure à 20h45. Lille reçoit le Paris FC.
France France Info.
La culture de la vigne se développe en Bretagne. Elle avait disparu complètement ou presque au siècle dernier. Et bien là, elle se professionnalise de plus en plus. Vous l'avez constaté, Alexia Rad à Quimper, à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Association pour la reconnaissance des vins bretons.
C'est un changement de législation qui a permis aux Bretons de produire et commercialiser du vin. Yves Abotret, président de l'Association pour la reconnaissance des vins bretons.
Les premières plantations datent de 2017-2018. Ils ont démarré à 6, aujourd'hui ils sont 50. On est aux alentours de 200 hectares plantés et on en plante tous les hivers.
Karim Khan, restaurateur hôtelier près de Rennes, a décidé de se lancer.
Nous, on adore le vin, on suit le vin depuis des décennies, je dirais. On a beaucoup de personnel qui est très impliqué dans le monde du vin. Avec les opportunités du réchauffement climatique, c'était naturel pour nous de faire un vignoble.
Le réchauffement climatique favorise en effet l'extension de la viticulture en Bretagne, souligne Yves Abotret.
Les études le montrent, la vigne remonte sur l'hémisphère nord. Elle s'implante dans plein de territoires qu'elle avait connus par le passé, ou qu'elle avait abandonnés. Et les conditions sont réunies.
Les vignes sont surtout situées en Haute-Bretagne, mais celles du Finistère vont aussi se développer, selon Daniel Gézoin, responsable du coteau du Braden à Quimper.
On a constaté qu'on est quand même un peu embêté par l'humidité du climat. On attendra peut-être quelques décennies avant que dans le Finistère, on puisse faire des vins qui se plaisent très bien un peu plus en sud, notamment dans le Val-de-Loire.
Les vins bretons ne sont en tout cas pas prêts d'envahir le marché. L'ensemble du vignoble va produire environ 150 000 bouteilles cette année.
Alexis Arad, ici Brésisel, ex-France Bleu, pour France Info.
Le club France Info, l'équipe.
Le club France Info, l'équipe, avec vous ce soir, Dan Pérez, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à l'équipe. Soulagé, c'était votre une ce matin après la victoire spectaculaire du 15 de France contre l'Australie, 48-33, c'est du rugby bien sûr. Deuxième victoire en trois matchs dans cette tournée d'automne. Des Bleus qui s'achèvent donc sur une bonne note, sans gommer tous les doutes. La défaite face à l'Afrique du Sud il y a 15 jours et les 5 essais encaissés hier face à l'Australie confirment, Dan, qu'il y a encore beaucoup de travail à 2 ans du prochain mondial.
Oui, bien sûr, le sélectionneur Fabien Galthié en est conscient, il l'a dit d'ailleurs. Le match contre l'Afrique du Sud, la défaite contre l'Afrique du Sud au début de cette tournée, de toute façon, avait suffi à illustrer plusieurs manques au sein du 15 de France. Et même une large victoire face à l'Australie hier n'aurait pas effacé tous les doutes. Alors là, certes, il y a eu victoire spectaculaire, vous l'avez dit, mais on a vu encore beaucoup de problèmes à régler, notamment dans l'indiscipline, pardon, et dans plusieurs passages à vide au cours de cette tournée. Donc oui, c'est une équipe de France qui ressort de ces 3 test-matchs pas tout à fait rassurée.
Avec malgré tout des jeunes joueurs qui se sont montrés, je pense à Nicolas Deporter, le Bordelais, ou à Kevin Gourgue, le Toulousain, il y a quand même une relève qui frappe à la porte. Hein.
Oui, et puis on peut dire aussi qu'il y a toujours des absents au sein du 15 de France, mais notamment leur meilleur joueur Antoine Dupont. Donc,
qui devrait bientôt faire son retour d'ailleurs.
Tout à fait. Effectivement... le tableau n'est pas complètement noir non plus, mais si on compare avec il y a 4 ans, voilà, parce que quand on pense à la Coupe du Monde, ce sont des cycles de 4 ans, ben, Fabien Galthié le dit lui-même, il y a 4 ans, l'équipe avait quelque chose de plus solide, plus homogène. Là, l'équipe n'est pas encore au même niveau. Peut-être est-ce une bonne nouvelle, parce que comme ça, les Bleus ne seront pas prêts trop tôt et peuvent penser à 2027, mais avant ça, il y a le tournoi, effectivement, avec des jeunes qui pousse, notamment l'entrée de Calvin Gourgue hier, le Toulousain, qui a été époustouflant, notamment sur le deuxième essai de Louis Bielbarré.
Le tournoi des destinations qui démarrera le 5 février hein, pour les Bleus. Ce sera un jeudi soir d'ailleurs, les Français qui accueilleront l'Irlande avec un gros choc hein, d'entrée pour commencer. On parle de foot également, Dan Pérez, le PSG a repris la tête de la Ligue 1 hier soir en battant Le Havre 3-0. 2 points d'avance hein, pour les Parisiens sur Marseille. Mais l'événement, c'était le Pogba, le retour de Paul Pogba sur les terrains. Plus de 2 ans après son dernier match professionnel, le champion du monde a joué pour la première fois sous les couleurs de Monaco en entrant en jeu en toute fin de match sur le terrain de Rennes. Bon, le match est soldé par une très lourde défaite pour Monaco, 4-1, mais c'était quand même symbolique de voir le retour en jeu de Pogba et d'ailleurs sous l'ovation du public rennais.
Oui, l'ovation du public rennais, un moment émouvant pour Pogba, bon, qui reste quand même le suspendu pour dopage le plus populaire du pays, visiblement, comme on l'écrivait aujourd'hui. Mais voilà,
comment
on
l'explique
revoir,
d'ailleurs que son image reste à ce point intacte malgré, vous l'avez rappelé, sa suspension pour dopage avec la Juventus.
Déjà parce que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire des Bleus, parce qu'il est toujours agréable à voir jouer, et puis parce que le rapport au dopage dans le football est sans doute d'ailleurs différent que dans d'autres sports. Donc on accepte, en tout cas l'opinion publique accepte peut-être un peu mieux le retour de certains athlètes, et en l'occurrence de certains joueurs, de suspension pour dopage. Hier, on l'a vu reprendre un peu ses marques, être ému. On sait qu'il a forcément mal vécu ce passage à vide. Il a distribué quelques transversales dont il a le secret. Mais évidemment, ce n'est que le début pour lui. Et s'il espère revenir pour la Coupe du Monde en 2026, il va falloir qu'il joue davantage, que le niveau augmente petit à petit, et notamment le niveau physique, parce qu'on a vu aussi que sur les sprints, et c'est logique, il n'a pas pu faire beaucoup de choses sur les quelques minutes qu'il a eu à jouer hier à Rennes.
Ça peut vraiment être un objectif pour lui de participer au Mondial l'été prochain aux États-Unis ?
C'est un joueur très ambitieux, Paul Pogba, et puis il a raison, parce qu'en pleine possession de ses moyens, évidemment qu'il aurait sa place en équipe de France. Il est très loin du compte, ce serait un miracle, il en est conscient, mais les joueurs de cette trempe, de ce niveau, ces champions-là ont toujours de grands objectifs, donc forcément ça reste dans un coin de sa tête, même si d'abord il faudra qu'il retrouve vraiment du rythme, qu'il puisse enchaîner les matchs, et pour l'instant voilà, c'est encore loin d'être le cas, il vient de reprendre, donc disons que la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique est encore loin.
On le disait, le PSG a repris la tête du classement. Ça n'a pas été forcément brillant pour les Parisiens, sauvés à plusieurs reprises par leur gardien, Lucas Chevalier. 3-0 tout de même pour Paris face au Havre. On a toujours ces deux équipes du PSG, Dan Perez, un Paris brillant en Ligue des Champions, un Paris plus poussif en championnat.
Et on sait que Paris a beaucoup d'absents, que athlétiquement c'est compliqué. Il y avait des joueurs, Nuno Mendes qui revenait de blessure, qui a dû faire les 90 minutes, et on l'a senti sur la réserve, un peu en difficulté sur le plan défensif d'ailleurs. Donc on voit bien que ce PSG-là, marche sur des œufs, ne donne pas pleine possession de son talent et de ses moyens. Ensuite, vous parliez d'un PSG brillant en Ligue des Champions. Il reste quand même sur une défaite logique face au Bayern Munich, pour leur dernière sortie en Ligue des Champions, et donc effectivement ils jouent cette semaine contre Tottenham à domicile, et ce sera l'occasion de rebondir dans la compétition, même s'ils restent bien placés. Mais effectivement, on est sur une première partie de saison pour ce PSG, on va dire à 70-80%. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant non plus.
Merci beaucoup Dan Perez, rédacteur en chef à l'Équipe, d'avoir participé au Club France Info L'Équipe, comme tous les dimanches sur France Info. Voici l'actu des séries à présent. Avec l'événement de la semaine prochaine, la cinquième et ultime saison de Stranger Things sur Netflix, Laurent Vallière a rencontré les créateurs de la série.
Retour à Hawkins, la ville vit sous cloche depuis que la porte qui sépare le monde réel et le monde à l'envers est ouverte.
On est bloqué ici.
L'armée surveille, Eleven est traquée. Sur Terre, les jeunes héros, Mike, Will et leurs amis, ont bien grandi. C'est un retour aux sources et finalement la résolution de la grande énigme que propose cette ultime saison de Stranger Things. Les frères Matt et Ross Duffer, créateurs de la série qui règne dessus depuis 10 ans, connaissent la fin depuis presque le début. Matt Duffer.
On a imaginé la scène finale il y a un moment, je ne dirais pas depuis la saison 1, car nous n'étions même pas sûrs à l'époque d'avoir une saison 2, mais nous l'avons en tête depuis au moins 7 ans. Et c'était super, car ça nous donnait une sorte d'étoile polaire, une direction. Par ailleurs, on sait depuis toujours ce qu'est le monde à l'envers, et nous allons le révéler au cours de cette ultime saison.
On trouve Vecna, et on en finit une fois pour toutes.
Stranger Things a été un succès surprise pour les frères Duffer, qu'ils n'expliquent pas seulement par un mélange d'histoires fantastiques à la Stephen King et de films pour enfants à la Steven Spielberg, digne des années 80. Matt Duffer.
Beaucoup de gens mettent l'accent sur la nostalgie de la série, et je pense que cela fait partie de son attrait, le fait de pouvoir revisiter cette période, les années 80 et les films de cette époque. Mais nous avons aussi un public plus jeune pour qui la série n'a pas été conçue. Au départ, la série a vraiment été faite pour plaire à des gens comme moi et Ross, qui avons grandi avec ce type de film. Mais si la série a eu autant de succès, ça tient davantage aux personnages et aux ressentis liés au fait d'être enfant. On a tous été des enfants à un moment donné. Donc il y a une universalité dans dans le fait de grandir et dans les difficultés liées à l'adolescence.
On doit rester fidèle à nous-mêmes et rester fidèle à nos amis.
Si Stranger Things se déclinera ensuite en série d'animation, en spin-off, les frères Duffer ne seront plus à la réalisation. Ils quittent Netflix pour Paramount afin de réaliser leur rêve. Matt Duffer.
Nous sommes très tristes parce que nous refermons la porte sur cette histoire et ses personnages. Travailler avec ces acteurs et cette équipe va nous manquer. La plupart d'entre eux sont impliqués dans la série depuis 8 à 10 ans. Mais une partie de nous est aussi très enthousiaste à l'idée de pouvoir raconter de nouvelles histoires et de faire un film, cette fois pour le cinéma. Donc on est un peu partagé.
William, tu vas m'aider.
Stranger Things, saison 5, les 4 premiers épisodes à partir de jeudi sur Netflix. Le final, long comme un film, le 1er janvier.
Laurent Vallière pour l'Empire des séries.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Patricia Charbonnier pour le temps.
Le temps sera très instable en début de semaine avec de la pluie et le redoux qui va gagner du terrain demain vers les régions de l'Est. Mais la météo s'annonce très agitée avec de la pluie toute la journée entre les frontières de l'Est, le Massif central et le Sud-Ouest. Ces pluies gagneront le quart sud-est dans l'après-midi. On attend des cumuls assez importants, notamment sur la Corse, sur le Sud-Ouest. De fortes chutes de neige sur les Alpes du Nord avec un risque d'avalanche qui sera très marqué demain. Et sur la moitié nord du pays, le temps restera assez nuageux avec de fréquentes averses, parfois fortes, orageuses, accompagnées de grésils sur les côtes de la Manche et sur la Bretagne avec des températures en forte hausse demain matin sur le quart nord-est du pays. 3 degrés